I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Aix, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous choperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattable. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'1 million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bash, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande, des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Existe-t-il une seule situation, un seul état d'être qui empêche l'amour? Même dans les pires situations morales, physiques, est-ce qu'on peut être totalement interdit d'amour? Anthony l'a pourtant bien cru, mais je n'arrête pas de vous le dire. L'amour ne connaît pas de limites.
J'ai 20 ans, on est en 2008. Je suis au CFA de Larrier en apprentissage, en PAC professionnel, en maintenance de véhicules industriels. En 2007, j'avais monté mon magasin et atelier de moto, j'étais à l'école. En fait, avant de suivre ce cursus, je voulais faire mes études dans la moto. Mais mon père m'a dit que pour mon avenir, il n'y aurait pas beaucoup de débouchés. Il m'a vraiment orienté du coup, sur la maintenance des véhicules industriels. Du coup, j'ai fait CAP et bac professionnel en apprentissage dans sa société. Ça a fait 4 ans d'études. Mon père a une société de réparation et de vente de chariots élévateurs. La passion de la mécanique, mon père me l'a transmise très jeune. Tout jeune, il m'emmenait avec lui, bricoler, lui donner les outils, tout ça. En primaire, au tout début, moi, je voulais faire pilote d'avion de chasse. On m'a tout de suite dit qu'il fallait avoir une vision 10 sur 10 aux deux yeux. Et du coup, vu que j'ai un œil qui est quasiment aveugle, ben, je me suis tout de suite résolu. Et c'est vrai que dès la primaire, je savais que je voulais en faire mon métier parce que c'est vrai que j'aimais beaucoup travailler dans la mécanique, bricoler avec lui. Et le père, passionné de mécanique, il a pratiqué le motocross dans sa jeunesse. C'est un sport qu'il a beaucoup aimé et qu'il nous a transmis. Je sais que j'ai attaqué la moto à 4 ans. Au début, c'est vraiment que loisir. J'ai attaqué moi la compétition vers 15-16 ans parce que c'est vrai que le père, avec son entreprise et puis les 4 marmailles, c'est vrai que c'est compliqué d'emmener les enfants sur toutes les compétitions. Et du coup, c'est mon cousin qui m'emmenait sur les compétitions. Mon papa, il est dur, mais juste, il nous a appris à ne pas abandonner. Même si le combat est compliqué, il faut vraiment se battre jusqu'au bout, quoi. Je suis complètement casse-couille, je suis complètement accro à l'adrénaline. Et le problème, c'est comme toute personne dépendante, on va dire, de n'importe quoi, que ce soit l'alcool, l'adrénaline ou ce qu'on veut, on en veut toujours plus. Et au début, je vais dire une bêtise, mais il fallait que je saute 1 mètre de haut pour ressentir quelque chose. Après, c'est 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Il y a la boule au ventre, mais cette boule au ventre, en fait, on l'aime beaucoup parce que quand on a réussi à faire ce qu'on avait voulu faire, ça fait une sensation, cette adrénaline qui explose en soi. C'est juste la sensation est complètement folle. C'est pire qu'un feu d'artifice. Il y a des fois, j'avais presque envie de jeter la moto de joie et de folie, parce que du coup, la sensation que j'avais ressentie était juste folle. Ce jour-là, en fait, j'avais une compétition et je décide de ne pas y aller, en fait. Je décide d'aller travailler tranquillement le dimanche à l'atelier. J'ai ma servante à monter dans mon camion et j'ai un client qui m'appelle le matin et qui me dit, ben, est-ce que tu peux venir cet après-midi avec moi à la carrière du Tremblay? J'aimerais bien qu'on regarde ma moto la régler. Je lui dis, ben, écoute, pas de souci, on se donne rendez-vous en début d'après-midi. Et je dis, ben, je vais prendre ma moto, comme ça je vais m'amuser un petit peu. Du coup, je charge la moto, je vais chercher un copain à moi. Environ vers 13h30, on se rejoint avec le client à la carrière. Du coup, le temps que mon ami et le client papote un peu, moi je pars faire quelques tours de roue. J'ai vu un saut un peu à la con et c'est vrai que justement j'étais friand de ce genre de choses et j'ai dit bon, bah voilà, ça me plaît bien ça. Le temps qui se prépare, je vais me faire ça tranquillement et du coup, je regarde un peu parce que c'est vrai que sur les gros sauts techniques, faut tout le temps prendre le temps de bien regarder. Et de faire cette prise d'élan. C'est vrai que moi je faisais tout le temps trois prises d'élan parce qu'après, plus on a l'appréhension et quand on y va, en fait, on fait des bêtises parce qu'avec la peur, le corps fait des choses, les mauvais réflexes. Du coup, ben, la troisième prise d'élan, j'y vais et directement, dès que je saute, en fait, dès que j'ai décollé, je me suis dit, aïe, 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 là, mon copain, ça va pas bien se passer et je me suis retrouvé en l'air sans inertie, sans pouvoir faire le chat, c'est-à-dire. Lâcher la moto pour essayer de me retourner en l'air, pour retomber à peu près sur mes pattes. J'ai réellement pu rien faire et en fait ma position n'était pas bonne parce que j'étais la tête la première, un peu comme un javelot. Et j'ai rien pu faire pour me changer de cette position et c'est vrai que je suis tombé de, je pense, environ 3-4 mètres de haut la tête la première. J'ai pas eu de perte de connaissance. Quand j'étais au sol, j'ai tout de suite senti que j'avais mal au cervical et que je sentais plus rien et que je bougeais plus rien. J'ai tout de suite dit à mes amis d'appeler les pompiers en disant mon âge, mon poids approximatif, et que du coup je bougeais plus rien du tout et que j'avais une forte douleur au cervical. Je sais que je vais en avoir pour un moment, mais pour moi, je suis quasiment sûr et certain de pouvoir récupérer quasiment à 100% de mes capacités. Juste que le combat va être long, vu qu'en fait je ne connaissais pas du tout ce genre de blessure et le mot tétraplégique à ce moment-là de ma vie, je ne le connais pas du tout. Et du coup, les compteurs ont mis 45 minutes à peu près à arriver. Ils m'ont maintenu en position parce qu'ils n'avaient pas forcément tout ce qu'il fallait pour mobiliser la nuque et même tout le corps en fait avec la grande coquille. Du coup, ils ont attendu le SMUR qui arrivait environ une heure et demie après. Toute cette période-là, j'étais conscient et je me rappelle approximativement tout. Après, une fois le SMUR arrivé, très peu longtemps après, il y a l'hélicoptère qui arrive et qui m'emmène au CHU de Grenoble. Et c'est là où directement, en fait, ils m'emmènent en salle de scanner pour me faire un examen complet des blessures. Et c'est là que le neurochirurgien m'annonce que j'ai cassé quatre cervicales et d'autres choses qui n'étaient pas forcément très graves. Et du coup, il me dit qu'il m'emmène au bloc pour faire une opération pour me remettre en place et me consolider ma cinquième et sixième cervicale. Je me réveille le lendemain matin à 6h30 et là je respirais plus du tout tout seul parce que du coup avec la fracture cervicale ça fait un œdème en fait, c'est remonté au niveau de la cervicale numéro 3 et qui elle permet de respirer on va dire tout seul jusqu'à environ 11h midi je respire avec une machine. Après du coup vu que je gigotais pas mal dans tous les sens, dans la matinée le docteur décide de me débrancher pour me faire constater que je respirais plus tout seul. À midi, je continuais à jouer avec ma canule dans la bouche pour moi jouer. C'est un grand mot. J'essayais de l'enlever avec la langue et tout. Je cherchais à comprendre pourquoi, en fait, le fait de casser des cervicales, ça puisse agir sur cette fonction vitale, en fait. Du coup, ils ont refait un essai en fin de matinée aux alentours de midi. Et là, on s'est rendu compte que c'était bon. J'avais déjà récupéré la fonction de la respiration. C'était déjà moins préoccupant, on va dire. Le médecin de l'étage n'était pas forcément très cool, il disait pas grand-chose à part que j'étais dans un sale état. Mais moi, le lendemain, le mardi, j'ai dit à ma mère, écoute, j'ai fait une connerie, je vais assumer. J'attends patiemment que mon état se stabilise pour partir en centre de rééducation pour pouvoir attaquer. Mais là, actuellement, c'est vrai que en REA, la chose la plus inquiétante pour eux, c'était ma respiration. Et du coup, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rééducation respiratoire pour leur enlever un souci, pour qu'ils puissent m'évacuer de la réanimation, qui est un service qui n'est pas forcément très fun. Dans le cas où moi j'étais, la récupération abdominale, elle est loin en fait, parce qu'avant de récupérer les abdos, je dois normalement, dans la logique, récupérer la fonction de mes bras, de mes mains, de mes pectoraux et ensuite des abdos. Et c'est vrai que du coup, concrètement, j'attends réellement d'arriver au centre de rééducation où je me dis, et j'espère aussi, que je vais tomber sur des gens qui connaissent bien mieux les blessés médullaires. Parce que c'est vrai que c'est une spécialité. J'ai eu la chance d'être dans un centre de rééducation où le docteur Anne Prince, elle était, mais complètement voué à la cause, et c'était fortement agréable d'avoir une personne comme ça pour faire sa rééducation. C'est vrai que bah, du coup on est en confiance. Là déjà, moi j'écoutais ce qu'elle me disait, et justement il y avait de la cohérence et moins de compassion. J'ai vu que ça revenait un petit peu, mais que par rapport aux autres patients qui avaient des belles récupérations, certains, où ça allait relativement vite, je voyais clairement que j'étais en retard et qu'au bout du compte c'était clairement dû à la blessure médullaire. Je suis tétraplégique avec une atteinte C5 incomplète. J'ai une récupération qui est complètement en cohérence avec mon atteinte, c'est-à-dire que j'ai les biceps qui fonctionnent et pas plus, ce qui est logique par rapport à mon atteinte, parce que la cervicale 5, c'est celle qui énerve les biceps. Et du coup, au bout de 5-6 mois, je me suis rendu compte que j'aurais guère plus de récupération et je deviens 100% dépendant. Et ça, c'était un peu pénible mentalement pendant 6-8 mois, parce que tout le temps avoir besoin d'une personne pour faire ci, pour faire ça, et après on se rend bien compte que ça sert à rien de se torturer l'esprit, parce qu'au bout du compte, ça va être comme ça toute notre vie. Et le sentiment que j'ai eu là-dessus, c'est d'être retourné en enfance, d'être à nouveau un bébé en fait, et qu'on change mes couches, tout ça. Et quand on vient d'attaquer la vie active, qu'on a 20 ans et qu'on travaille, qu'on a sa société et qu'on bouge tout le temps, on va à la moto, on fait ci, on fait ça, et que là on en est réduit à se faire laver par des aides-soignantes, c'est particulier, c'est un peu pesant. Ouais. Pendant ma rééducation, je me rapproche de ma kiné et on sort ensemble pendant environ 3 ans. Tout ça, je connaissais pas la ville, je connaissais pas les sorties en ville, je connaissais pas les balades en parc. J'ai découvert la vie et j'ai découvert ça avec elle. Pour moi, à ce moment-là, je me sentais bien avec. La chance que j'ai là, à ce moment-là, c'est que le médecin que j'ai cité tout à l'heure était sexologue, on va dire, spécialisée un peu bah, justement pour le blessé médullaire. Elle était justement assez cool et on pouvait discuter de tout avec elle. Et là-dessus, nous avait assez rassurés en nous expliquant que bah, si on voulait pratiquer, avoir des rapports, tout ça, qu'il n'y avait vraiment pas de souci. Et on vit une histoire d'amour pendant 3 ans et ensuite on se sépare. Et là, à ce moment-là, je sais que moi, je veux plus entendre parler de filles, parce que c'est vrai qu'une rupture, c'est jamais bien fun. Et je me dis qu'en fait, au bout du compte, trouver une personne qui peut réellement accepter le handicap et vivre avec ses contraintes, parce qu'il y a pas mal de personnes qui pensent justement pouvoir le faire et assumer, mais clairement, il y a pas mal de sacrifices à faire. Et pour moi, la vie amoureuse, c'est complètement mort. Avec ma dépendance, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un organisme qui était assez flex là-dessus. Du coup, j'avais 3 auxiliaires de vie sur la semaine qui venaient la nuit de 19h à 9h du matin. Et il y en avait une avec qui ça allait pas du tout. Et à peu près au mois d'avril 2018, je gueule un peu et je dis que justement, cette personne, je la veux plus du tout, que ça peut pas aller. Et là, coup de chance, en fait, ils me disent non, mais écoutez, ça va vraiment pas, on va vous la remplacer, mais tout de suite. Ils me présentent Lydie. Et quand je la vois, on a à peu près le même âge, et je me dis, putain, c'est chouette, ça va être une super copine, on va bien rire, elle a l'air complètement fun. Déjà physiquement, bien sûr qu'elle me plaisait. Le fait qu'on écoute la même musique, j'écoute du vieux rap français, et c'est vrai que faut supporter ça, hein. C'est pas un registre qui peut plaire à tout le monde. On aimait vraiment beaucoup de choses en commun, et sa bienveillance en fait, qu'elle a tout le temps, que ce soit envers moi ou même les autres personnes, c'est vraiment une personne qui ressent vraiment comment dire, les émotions des autres et qui arrive à justement faire ce qu'il faut en face, quoi. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je sais clairement que il faut pas que je mélange auxiliaire de vie et sentiments parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Dans ma tête, c'est assez clair. Je veux juste que ça soit une bonne pote avec qui bien rire et la complicité se lie très vite. Et puis elle est trop mignonne parce que du coup, vu qu'elle, ça la gêne un peu qu'on ait le même âge, elle est très réservée, très timide. Et moi, je trouve ça, en fait, ça me charme extrêmement parce que souvent, les aides de vie, elles s'installent, elles s'imposent. Elle est très discrète et ça m'a séduit complètement. Ça allait super vite en fait, au bout de 2-3 semaines déjà, que je me dis aïe aïe aïe, mon rang c'est pas bon, fais attention parce que là je sens que j'ai des sentiments. J'essaie de me l'interdire, mais le problème c'est que les sentiments, on peut pas réellement agir dessus. Elle a rien montré, elle a été de marbre, aucune émotion est passée et moi je me suis retrouvé comme un adolescent au collège qui drague, qui envoie 70 SMS par jour. Alors que tous mes potes et même toutes les autres personnes, je déteste ce téléphone. Qu'elle, j'avais envie de lui écrire toute la journée. Je faisais des allusions. Il y a même une fois, je lui ai dit d'aller voir un film, en fait, un peu sur une histoire d'amour entre un tétraplégique et son aide. Je lui ai dit d'aller voir ça et je lui fais plein de petits compliments. Et je la fais beaucoup, beaucoup rire. Mais pour moi, vu qu'elle laisse passer aucune émotion là-dessus, j'envisage rien. Pour moi, c'est même limite mort parce que. Elle est séparée, elle aussi, et elle est dans le même état d'esprit que moi, où elle non plus ne veut pas retrouver d'amour, faire sa vie tranquillement, quoi. Elle a son enfant, tout ça, c'est vrai que du coup, pour moi, une personne qui a un enfant et en plus qui est mon auxiliaire, je me suis dit qu'en fait, c'était juste pas possible, quoi. Je sais clairement que c'est des vrais sentiments, que c'est pas une amourette comme on croit au collège, et à force de lui envoyer des perches, elle m'a clairement dit un jour, tu sais, ce soir. Anthony, faut qu'on parle. La phrase qu'on redoute tous. Je sais que pour ma part, quand une femme me dit ça fait peur. Et à ce moment-là aussi, je fais de l'apnée du sommeil. Alors tous les soirs, je m'endormais assez vite. Mais ce soir-là, impossible de m'endormir. Elle est venue dans la chambre aux alentours de 20h30. Et c'est là, elle m'a dit, tu sais, je sens qu'il y a quelque chose, tu peux m'en parler. Hein. Grosse panique là. Pulsation minute qui augmente, les mains moites. Même un démineur, je pense qu'il avait moins de trac que moi à ce moment-là. De toute façon, je suis devant le fait accompli. T'es plus un enfant, tu peux dire les choses. Ben là, je lui explique que concrètement, je sais que c'est pas bien, mais que je suis complètement amoureux d'elle, que j'ai beaucoup réfléchi au fait qu'elle ait un enfant et que le fait de m'engager dans une relation avec elle, il fallait que je sois sûr de moi pour le petit. Et moi, je voulais pas arriver dans sa vie pour repartir parce que dans ma tête, j'étais pas au clair. Alors je lui explique que là-dessus, j'ai bien réfléchi, que je suis prêt à faire ce qu'il faut aussi pour qu'on soit une vraie famille, quoi. Déjà, sa réaction, elle me surprend parce que du coup, je pensais que ça allait être rédhibitoire. Et en fin de compte, elle m'explique que d'un point de vue éthique, c'est pas professionnel et que c'est pas bien, mais qu'au bout du compte, elle aussi, elle sent qu'il y a. Il y a quelque chose qui se passe et elle m'explique vraiment que par rapport à son travail, elle peut pas. Et elle me parle de ça pendant 5-10 minutes et puis moi je rigole, je rigole, je rigole. Je lui dis, tu sais que j'aurais pu tout entendre, que par rapport à ton fils, tu voulais pas, que par rapport à mon handicap, que tu veux pas aussi, j'aurais pu l'entendre, que je te plais pas physiquement, j'aurais pu l'entendre. Mais que ça soit pas éthique, j'ai envie de lui dire, tu sais, on est des grandes personnes, c'est pas juste une amourette. Si c'est juste ça, j'accepte pas. Elle me regarde un peu surprise, on papote 1 ou 2 minutes, et là je lui dis, quand est-ce que tu m'embrasses? Et elle m'a embrassé direct. c'est extraordinaire. C'est... En fait, on retrouve énormément de similitudes avec les premiers baisers qu'on fait au collège. C'est vraiment exceptionnel. À cette époque, je dois avoir 28 ans. C'est des choses qu'on ressent plus, en fait. Et c'est vraiment fort de les ressentir à cet âge-là. Et que ça soit si fort, en fait. Juste pour un bisou, en fait. Un bisou du bout des lèvres, quoi. Ce qui me gêne énormément, c'est qu'elle me fasse mes soins intimes, parce que autant que quand elle était que mon auxiliaire, c'était déjà un peu gênant vu la proximité d'âge. Il y a l'ego et la fierté du mâle qui en prend un coup, parce que c'est sa femme qui s'occupe de soi. C'est vrai que moi, dans l'éducation que j'ai eu mon père, normalement, l'homme, il protège la femme et doit en prendre soin, et non le contraire. Et du coup, ça a été compliqué. Et elle a vraiment été chouette, parce qu'elle m'a dit, tu sais, c'est bon, hein, je te connais, ça ne me gêne pas, moi, faut arrêter ça. Et elle a su dédramatiser la chose. On se sent faible, hein, on se sent faible, et du coup, c'est affreux. Hein. Moi, je sais que personnellement, ça, c'est des genres de sentiments qui sont même plus durs à vivre que ma tétraplégie, au bout du compte. Et du coup, après, c'est redevenu comme avant, fun, comme au début, on rigolait bien, et on voit même plus le soin, en fait. C'est un moment de complicité et qu'on aime beaucoup, elle et moi, et où justement on rigole encore une fois bien, on parle un peu de notre journée, de ce qu'on va faire, de ce qu'on va essayer de faire. Et du coup, c'est là où je sais que c'est vraiment mon âme sœur, parce qu'au bout du compte, quand elle a un petit coup de mou, qu'elle en a un peu marre, moi je suis là à la faire rire, et vice-versa. Pour mes 10 ans de tétraplégie, je voulais voir en fait si j'avais vraiment un vrai mental, ou si c'était du vent, parce que des fois on a une image de soi qui n'est pas forcément réelle. Et pour mes 10 ans, je me suis dit, bah écoute, si tu veux vraiment voir ce que tu as dans le ventre, pars de Chambéry avec ton petit fauteuil et tu descends dans le sud, à Marseille, en fauteuil, parce que sur la piste cyclable, il y a 550 km. Du coup, je m'entraînais beaucoup, j'en avais un peu parlé parce que je cherchais des partenaires. Et l'organisme qui me suivait, il m'avait dit, bah écoute, tu peux compter sur nous, on se débrouillera pour que tu aies des auxiliaires de vie qui partent avec toi. Et moi, je voulais pas lui proposer, parce que vu qu'elle a un enfant... De 9 ans, 8, 9 ans, je me suis dit que dans tous les cas, je ne viendrais pas, et je n'en voulais même pas, parce que je me suis dit, c'est normal, quoi. Et du coup, là, le service m'appelle et me dit, bah, on a potentiellement Lydie, on a potentiellement telle personne. Et je dis, Lydie ? Il faut oui, pourquoi ? Je fais, bah, j'ai été persuadé qu'elle allait dire non. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'en fait, c'était une vraie bonne personne, et c'est bête à dire comme ça, mais elle avait marqué énormément de points, en fait. Je me suis dit que c'est la personne. Elle était capable de voir qu'en fait, que, bah, c'était que 15 jours où son fils serait chez les grands-parents et que le projet valait le coup. Et on va dire qu'en capital amour, rien que là, il avait encore monté, quoi. De où je suis parti de Chana à Port-Saint-Louis, mais il y a des parties de la Via Rona. C'est la piste cyclable, en fait, qui part de Genève et qui va justement jusqu'à Port-Saint-Louis ou même à côté à 7 et qui suit, en fait, le Rhône. Et du coup, avec les parcelles, moi, que j'ai dû sauter parce qu'elles n'étaient pas accessibles en fauteuil, j'ai fait un total de 300, un peu plus de 300 km en 13 jours. Du coup, ça fait entre 25 et 30 bornes par jour. Ça faisait à peu près 6 à 8 heures de fauteuil par jour. Elle a vraiment géré une intendance de ouf, quoi. Et arrivé à la fin, je me dis, mais elle n'est pas partie, elle est encore là. Et malgré que ça soit dur et qu'on s'est pas mal engueulé pendant ce moment-là, je me dis, waouh. Ça, c'est la fin de ma vie, c'est sûr. En rigolant un peu, je me dis, mais en fait, on pourrait limite se marier, quoi. Et elle m'avait fait comprendre que c'était complètement envisageable. Et ça faisait genre un mois et demi, deux mois après. Je me suis dit que la personne, pour qu'elle subisse ça et qu'elle reste, alors que les conditions étaient affreuses, ça a été quand même très, très dur physiquement et mentalement. Je me suis dit, ça, c'est sûr que c'est la fin de ma vie. Et tout, c'était fou. Après, du coup, je voulais lui faire une demande en mariage en bonne et due forme, mais c'est vrai que c'était un peu complexe parce que du coup, je voulais pas qu'elle se donne sa bague soi-même, je trouvais ça complètement nul. Alors j'ai réfléchi un petit moment, un petit stratagème pour faire ma demande en mariage. Du coup, on était allé faire des courses et je lui ai dit, bah, attends, va au camion, j'arrive, j'ai deux, trois bricoles à faire. Et du coup, je vais dans une bijouterie, je discute avec une vendeuse, je cherche Je cherche du coup une bague parce que c'est vrai que je connais un peu ses goûts, je sais qu'elle aurait voulu un truc subtil et assez léger. Du coup, je demande même à la vendeuse de mettre la bague sur soi parce que j'ai très je voulais vraiment pas qu'elle l'aime pas en fait. Du coup, j'avais mis ma soeur dans la combine aussi à ce moment-là et en fait, au retour des courses, ma soeur devait venir m'aider à sortir l'étui de la bague. Pour me la mettre dans la main pour que je puisse faire ma demande, et ma soeur ne me répondait pas. Et je voulais pas que le soir, en me mettant au lit, en enlevant la veste, elle trouve la fameuse boîte. Et voilà, c'était totalement nul. Et vu tout ce qu'elle a fait pour moi, je voulais vraiment pas ça. Du coup, je me suis démené pendant 10-15 minutes, ça a été affreux, je crois. Ça a été un des plus gros challenges que j'ai réalisé. Je me suis dépatouillé à ouvrir ma veste, aller chercher l'étui de la boîte avec ma langue et tout dans ma veste. Ça peut paraître crade, mais j'avais pas forcément le choix. Et du coup, j'ai réussi tant bien que mal à sortir l'étui de la veste, le poser sur ma jambe pour la cacher. Et puis là, elle est revenue dans le camion, parce qu'on devait bouger. Je la regarde et tout, un peu tout essoufflé, tout limite de travers dans mon fauteuil, tout pas bien. Je lui dis, est-ce que tu veux me supporter tout le reste de ta vie? Et elle m'a répondu oui tout de suite. Elle a versé sa petite larme. Et puis voilà. Après, la crise sanitaire, et actuellement, on attend que ça passe. Et là, vu que ça passe, on va le programmer pour l'année prochaine pour être tranquille. Je suis quelqu'un qui a besoin de personne pour accomplir les choses et avancer. Mais c'est vrai qu'elle, bah, c'est un peu comme la muse. Elle me donne envie de faire encore plus. Encore plus, encore mieux, et en fait, c'est ouais, une source d'inspiration, une motivation qui est folle. Déjà, décevoir mon père, c'est dur, mais elle, quand je la déçois, c'est affreux. On a parlé avec ma chérie. D'avoir un enfant à nous ensemble. Et au centre, avec la chance d'avoir un bon médecin, on avait fait tout ce qu'il fallait justement pour mettre des paillettes au sécos. C'est un organisme qui garde justement ben, au frais les paillettes au cas où un jour on décide de faire une insémination. Non, parce qu'en fait, les blessés médullaires, vu qu'on va dire que l'éjaculation est quand même commandée par le faisceau électrique, on va dire, par tout ce qui est nerf nerveux, on va dire. Les tétraplégiques ont beaucoup plus de chances que les paras, parce que c'est nous qui avons, on va dire, plus de pourcentage d'éjaculation naturelle, on va dire. Mais moi, pour ma part, c'est trop incertain, et du coup, on a dû avoir recours à une petite intervention, en fait. Bien sûr, ça, il faut le faire tout de suite après l'accident, parce qu'en fait, après, vu qu'on a pas mal au niveau urinaire, on évacue plus correctement toute l'urine de la vessie. On a tendance à développer des mini-germes et au fur du temps, en fait, il diminue extrêmement la qualité des spermatozoïdes. On aura rarement, nous, les tétraplégiques, des érections parce qu'on voit justement sa femme qui est en petite tenue, qui du coup fait comment dire, une réaction qui fait qu'on a une érection. Il faut vraiment, comment dire, une stimulation extérieure et même avec stimulation, des fois, on a des érections qui ne sont pas 100% fiables. Vu qu'on a une complicité, on rigole de tout et on trouve des alternatives à tout. Et quand il y a des petits soucis, comme ça, on trouve tout le temps des alternatives pour que tout le monde soit satisfait, que personne soit frustré. Et ça, c'est quand même encore une fois beau d'avoir une partenaire avec qui on est totalement en confiance et totalement à l'aise pour justement pas se sentir pas bien et que tout le monde passe un bon moment. Moi, bah, j'aimerais lui dire bah, un grand merci de tout ce qu'elle fait pour moi, de sa gentillesse. Elle me traite vraiment comme si j'étais son mec valide, en fait. Quand elle doit m'engueuler ou me taper dedans, elle le fait sans retenue. C'est agréable de sentir qu'en fait, je suis, on va dire, son homme. Et tout ce qu'elle sacrifie pour s'occuper de moi comme ça, c'est vraiment beau. Et du coup, je la remercierai, je pense, jamais assez pour tout ce qu'elle fait pour moi. Un grand merci à toi, mon petit chaton. Parce que c'est vrai que quand t'as des fois pour rigoler, je lui dis, mais je suis vraiment ton boulet, je te gâche la vie, tu devrais aller voir un autre. Et là, même si c'est au second degré, elle aime pas du tout, Elle me fait clairement comprendre que les histoires qu'elle a eues avant avec ses ex-compagnons, elle n'avait jamais connu ce qu'on vit là. Du coup, c'est vrai que ça me rassure là-dessus. Et de trouver sa moitié comme ça, c'était que dans les films qu'on voit à la télé. Je pensais pas qu'on puisse avoir une complicité et un amour comme ça pour une personne. Ça fait 3 ans qu'on vit ensemble et le plus fou, je lui en parlais encore il y a quelques jours en arrière, c'est que, bah, au bout d'un an et demi, 2 ans, pour tous, il y a la lassitude, il y a moins de désir, tout ça, parce que les relations qui ont 6 mois, 1 an, au début, elles sont hyper folles, mais comme je disais, moi, j'ai toujours le même amour, le même désir, j'ai toujours. Et c'est des fois plus, et je me dis que c'est beau, et c'est pour ça que je sais que c'est la fin de ma vie.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.